Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission L'Association de la Semaine. Aujourd'hui, je reçois Augustin Manzanares, qui est chef d'une patrouille de scouts d'Europe de la troupe de Ménil-le-Roi. Augustin Manzanares, bonjour.
Bonjour.
Je le disais, vous êtes chef de la troupe du Ménil-le-Roi parmi les scouts d'Europe. On va commencer par la présentation du scoutisme. Quand est-il né et de quoi il s'agit précisément?
Ouais, bien sûr, c'est un grand mouvement qui a une naissance dans les années 1899-1902 en Afrique du Sud pendant la guerre de Boers, c'est-à-dire c'est une ville en Afrique du Sud qui est défendue par des troupes anglaises. C'est un siège de Mafeking et c'est Baden-Powell, vous peut-être avez déjà entendu parler, un capitaine anglais qui va proposer à des jeunes de la ville de l'aider pour défendre pendant ce siège et en les aidant, en leur permettant de faire des actions de sentinelle, d'observateur, en tant que finalement éclaireur. Et c'est à la fin de ce siège qu'il va se rendre compte de l'efficacité de ces jeunes et il va décider de créer un petit ouvrage qu'il va appeler Scouting, qui en anglais veut dire art des éclaireurs. Et en fait, quand il va rentrer de ce siège en 1902 en Angleterre, il va se rendre compte de deux choses. Déjà que son ouvrage a été un véritable succès, un immense succès partout en Angleterre. Il y a de nombreux éducateurs qui l'ont pris, pour exemple. Et la deuxième chose qui l'a frappé et qui est beaucoup moins glorieuse, c'est les conditions de vie des jeunes, notamment dans les quartiers dépravés de Londres. Voilà, ces jeunes qui sont perdus dans la drogue et l'addiction dès les plus jeunes âges. Et il va avoir pour but, pour volonté, pour objectif de redresser ces jeunes des banlieues avec justement l'expérience qu'il a acquise pendant la guerre du Boers en Afrique du Sud, et il va aussi s'aider de différentes méthodes éducatives un peu partout en Europe pour en 1907 faire le premier camp scout qui existait avec une vingtaine de jeunes déjà à l'époque. Et c'est à la fin de ce camp qu'il va créer un nouveau fascicule qu'il va appeler Scouting for Boys, les éclaireurs pour les jeunes. Voilà.
Le scoutisme a connu une expansion assez rapide dans le monde.
Ouais, exactement. En fait, c'est assez incroyable de voir que on a un premier camp qui se passe en juillet-août 1907 en Angleterre, donc sur l'île de Brownsea, c'est dans le sud. Et en fait, en l'espace de 3 ans, le scoutisme va se répandre partout dans le monde, que ce soit en Europe, je sais pas, en Suède par exemple, au Danemark, en France, en Norvège, mais aussi dans le monde entier, comme en Argentine, ou encore en Inde, même à Singapour. Donc en fait, on a un véritable besoin pour la jeunesse de l'époque, finalement, d'appartenir à un groupe pour grandir, que ce soit dans des atmosphères de jeu, d'indépendance ou encore de confiance. Et en fait, on peut faire un parallèle aussi avec aujourd'hui, avec un nombre de scouts d'Europe qui augmente au fil des années.
Alors justement, là, vous parlez de scouts d'Europe. Il faut savoir qu'il y a différents types de scoutisme. Voilà. Quels sont-ils et pourquoi il y a cette séparation entre ces différents types?
Alors en France, aujourd'hui, on peut regrouper le scoutisme en 3 différentes parties. On a les scouts de France, les scouts d'Europe et les scouts unitaires de France. En fait, ce qui s'est passé donc avec cette expansion du scoutisme au début du XXe siècle, c'est le père Jacques Sevin qui a été assez interpellé par ces actions de Baden-Powell, qui a décidé d'aller le voir en Angleterre en 1913, et qui en fait, après une discussion, a été fasciné par ce qu'il avait mis en place. Il est revenu en France, il a décidé de créer, à partir de 1919, le scoutisme catholique français. Voilà, il va monter les premières troupes, et en fait, c'est un scoutisme qui va rester jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et après les dégâts de la Seconde Guerre mondiale, on se retrouve avec une Europe totalement fracturée, et c'est en 1956 que des jeunes catholiques européens se retrouvent, et sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale, en parallèle de ce mouvement européen de fraternisation des États, va construire le scoutisme européen petit à petit et qui va arriver en France. Et c'est véritablement en 1976 qu'on a le scoutisme européen français qui arrive, l'AGSE, l'Association des Guides et Scouts d'Europe. Et dans le même temps, finalement, en France, on avait déjà une sorte de prémisse de cette séparation avec une volonté pour les scouts de France de se moderniser, de vivre plus dans le monde dans lequel ils étaient, qui a beaucoup évolué pendant cette période post-Seconde Guerre mondiale, alors que les aspirations des scouts d'Europe, notamment comme la figure de Michel Menu, qui est résistant ingénieur et auteur français, qui avait plutôt une volonté de garder l'esprit du scoutisme comme le pensait Baden-Powell. Et en fait, finalement, le scoutisme européen vient un peu de cela.
Alors, une troupe de scouts d'Europe, comment est-elle composée ?
Alors, une troupe de scouts d'Europe, c'est assez simple. On a d'abord un chef de troupe qui gère toute la troupe, son fonctionnement, les activités qui sont mises en place. Et la troupe, elle est divisée après en différents petits groupes. On en a 5, 4 d'une manière générale. Ces groupes sont des patrouilles. Et ces patrouilles, on y trouve des jeunes allant de 12 à 17 ans. Et le plus âgé de la patrouille de 17 ans est le chef de patrouille. C'est lui qui organise les activités à petite échelle, que ce soit des sorties ou des week-ends même parfois, ou encore des services qui sont rendus d'un point de vue social finalement. Et parfois, il arrive donc à des troupes, donc plusieurs patrouilles, de se réunir avec le chef de la troupe, qui est un étudiant d'environ 25 ans d'une manière générale, pour des activités, encore une fois, que ce soit des sorties ou des week-ends, mais à plus grande échelle, avec plus de monde environ. Pendant nos activités de troupe ensemble, on est 35 à peu près. Et donc ça, c'est par rapport à la structure. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à plus grande échelle, on a un chef de groupe qui, lui, gère le groupe, parce que je vous ai parlé avec les scouts des garçons, mais il faut savoir aussi qu'il y a la même chose pour les filles. C'est bien le mouvement de l'AGSE, l'association des groupes des guides et scouts d'Europe. Et donc, les guides ont aussi les activités qui sont faites en parallèle du scoutisme, alors que c'est un groupe qui est, c'est un mouvement qui est non mixte. Et les guides qui ont pareil, donc de 12 à 17 ans, font leurs activités en même temps. Et donc, guides et garçons réunis forment le groupe, finalement.
Alors, je l'ai dit en présentation, vous êtes chef de patrouille de la troupe du Ménil-le-Roi. Une petite présentation rapide de cette troupe.
Alors, c'est une troupe qui est née en 1977, donc au Ménil-le-Roi, donc c'est à côté de Maisons-Laffitte, dans les Boucles de Seine. Et donc, elle a aujourd'hui 43 ans et elle est composée de 5 patrouilles, qui sont le lemming, le loup, le castor, le faucon et le renard. Donc vous voyez, on a des noms d'animaux pour nous identifier, nous trouver avec chacun nos caractéristiques. 5 patrouilles qui forment une troupe de 37 scouts aujourd'hui, notamment surnommée la First depuis les années 90, parce que c'est une troupe qui a la particularité de se lancer de nombreux défis chaque année. Pour aller toujours de l'avant et garder cet esprit scouting for boys, comme le disait Baden-Powell.
Alors, on va parler de vos activités en tant que scout. Comment c'est une vie de scout ?
Alors, l'année, elle est répartie en différentes parties. Tout d'abord, on a la rentrée scout. Donc, elle permet de se retrouver après 2 mois de vacances en septembre et de faire les premières retrouvailles et puis de structurer la troupe qui va durer l'année. Certains vont partir, d'autres, les plus jeunes, vont arriver. Voilà, c'est cette rentrée qui permet de véritablement lancer l'année. Après, tout au long de cette année, on va avoir différentes sorties qui vont avoir pour but de créer une véritable ambiance au sein soit des patrouilles, des groupes de jeunes, soit de la troupe. On apprend à y vivre avec peu de moyens. On se forme aussi techniquement dans différents domaines, que ce soit le secourisme, que ce soit l'orientation avec boussole ou carte, que ce soit dans le travail aussi du bois, du froissartage, parce qu'il faut savoir que toutes nos activités, elles sont faites en forêt. Donc, il faut savoir se débrouiller en forêt, vivre, pouvoir faire toutes les activités possibles, savoir faire un feu, monter une tente, voilà, ce genre de choses. On a aussi des week-ends et sorties de troupes, donc c'est plus grande ampleur, comme je le disais tout à l'heure, où on réunit 37 personnes en même temps. Et la particularité de ces week-ends de troupe, elle se trouve dans la soirée où il va se faire ce qu'ils appellent les veillées. C'est un peu l'image qu'on a aujourd'hui du scoutisme avec quelqu'un à la guitare parfois, et puis des sketchs, on va chanter, réaliser quelques animations, faire des jeux. Voilà, c'est un moment vraiment très convivial, très sympa, où on se retrouve ensemble pendant 2 heures dans la soirée. Et puis après, on a ce qui s'appelle aussi le camp de Pâques. C'est le moment où, en patrouille cette fois-ci, donc en groupe de 8, on va se réunir pour que les plus jeunes se familiarisent avec le fait de camper loin de chez soi, loin de ses parents, et ça va durer environ 4 à 5 jours. Et l'apogée finalement de l'année, ce que tout le monde attend le plus, c'est le fameux camp d'été, 3 semaines éloignées de la famille, éloigné du confort de la maison, où là, on va, par exemple, faire des installations, construire des installations en bois, donc faire une table en bois, faire un vaisselier en bois, des hamacs en hauteur. C'est aussi un moment où on va faire une exploration, hein, pas trop, on va partir à la découverte de la région, ou encore des activités comme les Olympiades, où on va faire des activités plutôt sportives, ou se mesurer entre les patrouilles. Voilà, c'est un moment assez intense pendant 3 semaines où on vit sans un grand confort, mais incroyable. On en retient de grandes expériences très très belles, vraiment.
Et du coup, cette expérience du scoutisme, et notamment le scoutisme européen, ça permet d'accéder à une évolution personnelle,
exactement.
Une école de vie.
Exactement, c'est une véritable école de vie, oui, le scoutisme européen. En fait, l'objectif de ce mouvement, c'est de permettre à des jeunes de grandir et d'évoluer sainement, finalement, dans un profond désir d'atteindre comme une sorte d'idéal de jeune homme, finalement, vrai, franc et pur, et de permettre à chacun, finalement, de progresser à sa façon, de lui donner des caps, des objectifs, finalement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'on entre dans ce mouvement, à 12 ans, on prononce sa promesse, qu'on entre véritablement en tant que scout. Et tout au long de notre parcours, on va avoir une progression qui est proposée avec le passage de la seconde classe ou qui est notamment validée à la suite d'un raid où on va marcher pendant 2 à 3 jours. C'est une épreuve à la fois technique, mais aussi physique. Et puis petit à petit, on va se spécialiser aussi dans des domaines, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'orientation, le secourisme, ce genre de choses. On peut aussi continuer avec le passage de la première classe. Et enfin, devenir scout raider. Donc vous voyez, en fait, c'est une progression qui est assez importante, qui prend pas mal de place aussi dans la vie du scout, mais qui est presque essentielle parce que, en fait, c'est une véritable école de vie dans le sens où elle permet à chacun de progresser, à la fois en autonomie, mais en confiance, finalement.
Alors, venons-en maintenant aux actions solidaires menées en tant que scout d'Europe. Voilà, quelles sont-elles?
Alors, il y en a de toutes formes, et le scoutisme européen a aussi une vocation à la fois faire grandir des jeunes en autonomie, en groupe. Voilà, il y a cette phrase de Baden-Powell que je trouve assez belle, qui est l'éducation du jeune par le jeune. Mais aussi, il y a, comme vous l'avez très justement dit, cet aspect caritatif, cet aspect social du scoutisme qu'on retrouve de différentes façons. Alors, pour les jeunes, parce que c'est un mouvement de jeunes, le scoutisme, hein, 12-17 ans. Chaque année, il y a des patrouilles qui se lancent pour défi et même pour activité de faire découvrir le scoutisme européen à des jeunes des banlieues difficiles. Notamment, je prends l'exemple de l'association du Rocher au Mureau, avec lequel on s'entend assez bien. Et chaque année, on va au Mureau dans les quartiers difficiles pour parler du scoutisme, échanger sur voilà nos aspirations, ce qu'on fait, présenter des activités. Parfois, en fait, les jeunes ne nous connaissent pas, ne savent pas qu'est-ce qu'on fait réellement. On vient leur apporter, on vient être là, présent pour eux, leur donner de notre temps. Et c'est assez agréable, finalement, de voir que parfois, il y a vraiment des amitiés qui se lient concrètes, en fait, dans cette découverte du scoutisme pour eux et dans cette découverte de l'inconnu pour nous dans leur quartier. Ça, c'est côté plutôt jeune. Sinon, on a aussi des actions pour les personnes plutôt âgées. Notamment, je prends l'exemple de la Maison Lafitte, il y a ce qui s'appelle la Maison du Belvédère. Et chaque année, il y a aussi des patrouilles qui se déplacent dans cette maison de personnes âgées, voilà, pour juste profiter, passer un moment avec elles, que ce soit pour jouer aux cartes, discuter, prendre un goûter. En fait, au cours de ces visites, les jeunes scouts, c'est assez intéressant, ils prennent réellement conscience que c'est des personnes qui souvent, en fait, ils attendent que la fin. Et finalement, elles ont un véritable besoin d'écoute et d'attention pour elles. Et donc, c'est des moments, oui, forts qu'on passe avec ces personnes au Belvédère, à Maison Lafitte. Et puis, on a aussi, dans l'aspect plus social envers les personnes en difficulté, que ce soit financière ou de toute manière, on réalise des maraudes. Donc ça, ce sont soit des maraudes, je pourrais dire, entre guillemets, improvisées. On va, par exemple, à Paris, Gare Saint-Lazare, avec un peu de nourriture, aussi des vêtements chauds pour aller au contact des sans-abri, discuter avec eux, prendre le temps. C'est assez fort, des moments où finalement on laisse tomber toutes nos activités en dehors, on fait un vide dans notre tête, on s'assoit à côté d'elles, on leur parle, on leur tend la main, on discute. Et c'est vraiment des très beaux moments de partage qu'on vit avec ces gens-là. Ça nous arrive aussi pas mal de fois de passer du temps avec soit le Secours Populaire ou des associations comme les Restaurants du Cœur. Voilà, donc c'est dans cette ambiance-là d'aller vers l'autre, de l'aider, de proposer finalement notre aide. Et on le voit aussi, certains font des actions dans le secourisme, deviennent bénévoles à la Croix-Rouge, voilà, tout ce genre d'actions finalement pour partager un moment, donner ce qu'on peut de notre jeunesse, si ça peut aider finalement.
Ouais, donc il y a à la fois l'aide matérielle, hein, nourriture ou vêtements, et puis vous essayez d'apporter une aide humaine, une aide solidaire pour rompre finalement l'isolement de ces personnes.
Exactement. Oui, c'est important.
Concernant justement, là, vous parliez de vos maraudes, vous distribuez des vêtements ou de la nourriture pour les personnes en difficulté. D'où proviennent ces fonds?
Alors, les vêtements en général, ça peut arriver dans des familles. Certains ont, je sais pas, une couverture en trop ou c'est assez banal. En fait, l'aspect matériel, à part peut-être des sandwichs, on va acheter de la nourriture, on va faire ces sandwichs. L'aspect matériel, finalement, il est assez restreint pour nous. On est un groupe de jeunes de 12 à 17 ans. On n'a pas une grande entreprise et des fonds financiers forcément énormes, bien que on ait de l'argent pour entretenir nos matériels, quels qu'ils soient, hein, finalement, que ce soit des matériels d'orientation ou de travail du bois, etc. Mais pour rester sur l'aspect caritatif, on n'a pas tant d'argent à mettre dedans. Mais c'est vraiment, comme vous l'avez très justement rappelé, passer une soirée, que ce soit même en hiver, parfois il fait froid, ils dorment dehors, c'est vraiment tendre la main, prendre du temps pour eux, simplement.
Je reviens juste du coup à la première chose, à la première action par rapport aux jeunes, vous leur expliquez un peu votre activité. Quel est le but concrètement de la démarche?
Alors le but de la démarche, c'est, elle s'inscrit notamment aussi dans ce qui s'appelle le défi mission qu'on peut avoir en patrouille. C'est faire découvrir le scoutisme européen à des personnes qui n'auraient pas l'habitude de voir de scout de leur vie même peut-être, ou d'une manière générale d'en entendre parler. Finalement, c'est partager notre expérience, parce que c'est assez singulier finalement, vivre en forêt pendant presque parfois 24 heures sans un confort matériel important, c'est quelque chose qui aujourd'hui parfois peut assez interpeller. Et finalement, on se rend compte que c'est une chance qu'on a véritablement de se rendre compte que le matériel n'est pas forcément à mettre au centre de notre vie et qu'on peut très bien se débrouiller pendant un petit temps, juste en étant ensemble, en partageant un moment juste entre amis. Et finalement, c'est ce qu'on va essayer d'insuffler à ces jeunes de notre âge, de leur faire découvrir ce qu'on vit. Donc ça peut être comme des activités, on peut faire une activité en forêt avec eux, ou on peut juste faire peut-être un peu de secourisme ou les bases qu'on connaît. Simplement leur parler, prendre du temps, c'est aussi venir casser leur quotidien à ces jeunes qui passent parfois leur journée soit dans les tours ou quoi que ce soit. C'est le but pour nous est d'être une source finalement d'évasion, de divertissement, mais dans le sens vraiment positif du terme.
Quoi. Leur donner envie de, pourquoi pas, d'un jour de...
Pourquoi pas, oui, bien sûr, pourquoi pas, parce que le but, c'est aussi de faire grandir le mouvement, voilà, pour permettre, parce que c'est quelque chose qui me semble beau et important aujourd'hui pour les jeunes de notre âge, de faire partie de ce genre de mouvement, et pourquoi pas donner envie, oui, pourquoi pas. Si, par exemple, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en train de m'écouter, ça sonne presque comme une sorte de publicité, mais en fait, finalement, aujourd'hui, on recense un grand nombre finalement de troupes en France. On est à 33 200 membres scouts aujourd'hui. Et c'est, comme je l'ai dit au début, un mouvement qui grandit de plus en plus. Donc si il y a des jeunes qui écoutent là en ce moment, sachez que pour intégrer le scoutisme européen, c'est très très simple. Que ce soit au niveau local ou du département, il suffit juste d'aller de taper scoutisme européen et de mettre votre ville. À ce moment-là, Mantes-la-Jolie, Vernon. Et en fait, finalement, vous tomberez très très facilement, normalement, sur les responsables de groupe qui vous mettront en lien avec avec la troupe et le mouvement à l'échelle locale. C'est vraiment, pour moi, en fait, finalement, c'est ma cinquième année de scoutisme. C'est, vous allez dire, un peu long. Et finalement, c'est une véritable aubaine pour moi. Et je suis très, très, très heureux d'avoir pu intégrer ce mouvement. Passé cinq années, finalement, incroyables. J'ai noué des très belles amitiés, vécu des moments assez forts. Et puis encore aujourd'hui, le fait voilà, de passer à la radio et de vivre des défis que je me lance chaque jour dans le scoutisme, c'est vraiment quelque chose de très beau. Donc, je conseille et incite fortement les jeunes de 12 à 17 ans de se lancer dans l'aventure.
Merci beaucoup Augustin Manzanares d'avoir accepté de venir dans notre studio.
Avec plaisir, merci à vous.
C'est la fin de cette émission, vous pourrez la réécouter jeudi prochain à 19h30 et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle association. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.